Thank you for the invitation, and I'm happy to see all of you here. Thanks for coming. So I'm going to talk about a kind of an obvious point, but one that for some reason is not much present in the literature on in-home care workers, which is the wide, and I'm just going to speak about the U.S., but I suspect there are similar stories to be told in other countries. The enormous variation in pay, status, everything in this sector of the labor market. So the context is the U.S., which, as you know, is a wealthy country, but one that has very minimal social provision for, well, actually everything, but including in-home care, but also health care and so on. Just to illustrate that a little bit, there are only 9 of the 50 states, along with Puerto Rico and DC, which are not states, that have any kind of paid leave for family purposes. There is no national paid leave program, although not despite years and years of campaigning to try to get one. And partly for that reason, you probably know that historically the US was kind of ahead of other wealthy countries in terms of the level of not just women's labor force participation, but the participation of married women and mothers. But that has lagged now, partly because of the limited provision for childcare, paid leave, et cetera. Childcare people pay for themselves with a very modest tax credit, except for the poorest who do get subsidized childcare. And elder care, more relevant maybe today, is partly supported by what we call Medicaid, which is basically government-provided healthcare for very low-income population, and Medicare in a very limited way for certain situations. Medicare is universal, but much less available for this purpose. So for the affluent, I would say, well, it's hard to know exactly what percent that we're talking about, but maybe 20-25%. It's all private paid, basically. And meanwhile, this I'm sure you're aware of, thanks to Piketty and other commentators, the level of class inequality has been exploding in its growth in recent decades and is much more extreme than in France or other wealthy countries. And then a part of that that Piketty doesn't discuss, but some other people have, is the growing inequality among women, which helps drive the growth of in-home domestic work. That is kind of multiplied by the pattern of endogamy. Does everybody know that word? Meaning that affluent women marry affluent men or mate with affluent women or whatever. The partners and spouses of the rich tend to be rich and vice versa. And because couples and families are more stable among the rich, you have this pattern of households with two high incomes compared to, at the other extreme, often female-headed households with one low and precarious income. So that just sort of doubles the inequality that's already growing anyway among individuals, you follow me? So anyway, and that's important in this arena. But the biggest factor in the demand for in-home workers is aging, like everywhere, the aging of the population. Okay, well, this is just a graph illustrating the different level of inequality. Can you see this from where in the back? It just shows that the top 1% is the red line. So in the US, you see how much higher that is than the bottom 50%, the blue line. And this is Western Europe as a whole, where, you know, there is inequality, but not to nearly the same degree. I guess it's sort of blocked by this box, but you get the picture. Oh, and I've written about this elsewhere. I'm not going to get into the details today, but we know from both this research a few of us did years ago in the United States and more recently Jokola's 2015 paper that there is a strong relationship between the extent of employment in paid domestic work and inequality, if everything else is the same. So it's growing too. Okay, I'm going to go through this fast because I know you all know this. Well, so some people, including Nancy Fulbright famously, And maybe some people in our research group here too have a very expansive definition of paid domestic work. And there are, of course, big but not surprising gaps between, say, nurses or secondary school teachers, who Fulbright calls care workers also, and the kind of people I'm going to be speaking about today. In general, there's a big gap, but that is, you'd expect that, because there's professionals versus relatively minimal training for, or sometimes none. But there's also plenty of inequality among, at the bottom, among the in-home workers, which is what I'm going to talk about. So nannies, cleaners of private homes, and home care workers, which is the biggest group. And all these fields in the United States are dominated not only by women, but by women of color. And immigrants are also overrepresented. So not surprisingly, given the character of the jobs. So there's a huge, well, a substantial literature on these occupations focused on the sort of micro level, on the interactional dynamics between mostly female employers and domestic work, and the various inequalities, class and race, embodied in those interactions. So that's fine, but that's not what I'm going to speak about, because I think there's been much less attention to the sort of structural patterns, which is what I'm interested in here. Okay, this is just to show you the numbers. This is a recent 2019, right before the pandemic, data on employment in the United States in domestic work. And you can see that by far the biggest group is the home care aides. That's the bottom line, if you can't see in the back. And the middle one is childcare, and then house cleaners at the top. So they're all growing and important, but the real action is in home care, in my view. Oh dear, I don't think I can get into this, but let me just say, and Eileen Boris, who's here today, has written extensively about this. Unlike, say, nurses or whatever, in-home care workers were historically excluded from many of the bedrock protective legislation for labor and employment. And that has changed somewhat in recent years, but the legacy remains. So that's just history, which we can't explore in detail, but we can discuss later if there's time. Today, this is very poorly paid, low status, precarious work for the most part. So there is a study recently that showed that if you look at in-home workers, compare them to other workers with the same level of education, et cetera, they earn about less than 75% of the latter group. Many work part-time, but would prefer to work full-time. And so that means that those were hourly earnings, that 75% figure. For annual earnings, since the hours are also short, the gap is even bigger. Very few have employer-provided benefits like health insurance or pension. The exception is some agency-based home care workers who are actually unionized and get those benefits if they work enough hours, though many don't work enough hours. Anyway, that's a whole other thing. Many are paid in cash, which is not illegal, but the law requires some document verifying the payment, and they usually don't get that. If they're informal workers, they, like in other countries, that means no access to unemployment insurance, disability, social security, and so on. So the work is largely unregulated, and it's especially vulnerable just because it's invisible. It's located in private homes. So labor law and employment law enforcement is very minimal anyway in the United States, but it's especially minimal in this kind of work. So many of these workers don't even, you know, you maybe have heard the U.S. is no vacation nation. Like, we don't have any right to paid vacation. Upper level workers usually have some, but not these people. And although there are some laws now that domestic workers, bills of rights that require such things, most workers and employers are unaware that these laws exist. And even if they are, they're not enforced. So there are exceptions, but in general, this is the bottom of the labor market. They disproportionately experience, do you know this term, wage theft? It means being paid less than the minimum wage illegally, or being paid, not being paid properly for overtime hours, that sort of thing, which is common in other low wage occupations too, but especially common in this sector. So having said all that, a lot of these problems are common in the low-wage labor market, not just in home care. And I just want to add as a kind of parenthesis, that many workers who we've interviewed find the work very meaningful despite all this. And so if the choice is between this kind of job and working as a janitor or a waitress, where's Anne? you know, they might choose this because they find they like to help people who need help. You know, there are some positive features of the work as well, but the economic status is mostly quite bad, although you'll see there are exceptions. So there is some literature. Maybe I'll just skip the details, but you know, I'm not the first to notice that there's some range of conditions and pay in this sector. It's been documented here and there in the literature. So here are a few examples: Julia Wrigley, Perrette Ondagnu-Sotelo, Mary Romero. So I think just to save time, you can look at those sources if you're interested. They're very good, but mostly there's not that much attention to this. So I'm just going to talk now about the variations within this sector. There's a broad spectrum of pay and working conditions. Yes, on the average, it's really terrible and it's at the bottom, but not for everyone. And so there are differences among the three occupations, nannies, housekeepers, home care workers, but also within each of them. And so I'll just kind of give you some examples of that. And this is mostly based on a study. Just to mention, as you know, the US has about 10 to 12 million, nobody knows exactly, immigrants who have no legal status, undocumented immigrants. And obviously they are more vulnerable than other groups, and many of them work in this sector. So that's another axis of inequality. I can't even read this last line, but okay. Oh, so there is a group. So this is the next point. There is a sort of elite group within in-home domestic work who serve the very rich. This was not on my radar at all until I had a graduate student who, to make extra money, worked as a chef to movie stars, literally. That's how she was paid very well and treated very well. And all, so there's that. And then this is a ad for a staffing agency that will find maids, nannies, et cetera, for those who can afford to pay these enormous fees and so on. So that exists. So that is the top of the market, and it's much wider. There is a downside, as this next excerpt about private chefs illustrates. So this is just a New York Times piece from a while back, actually, 2000. So the journalist reports, most private chefs interviewed for this article said they were earning at least twice what they made in restaurants and working about a third fewer hours. In New York City, salaries for full-time private chefs, this is for a household, hired through agencies, started about $55,000 a year. This is in 2000, so that would be much more in today's dollars. They can go up to as much as $130,000. Salaries are comparable in Los Angeles, blah, 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 blah. So, you know, that exists. This is the sort of top layer. At the other extreme, of course, you have heard of these cases because when they are exposed, they make headlines. There are cases of domestic workers who are victims of labor trafficking, who, you know, are literally enslaved. And I don't know if these numbers are accurate, but one study found that as many as a quarter of the labor trafficking cases that had been identified in the previous decade were domestic workers. Sex workers is probably the largest category. Most of these cases are never reported, so we don't know how accurate these data are, but clearly it's substantial. So more typical in-home workers would be those three groups I mentioned. And so now the rest of the talk is, how am I doing for time? Another 10 minutes or so? So I'll just try to summarize this. And the report is available if you want to know more. And actually, this whole thing has been published as an article in the journal Critical Sociology, if you're interested, a year ago or so. Right before the pandemic, I was asked to do a little study for New York City, for the agency that enforces the Domestic Workers Bill of Rights and things like that, to do focus groups with home care aides, nannies, and cleaners. And so that's what the rest of this is about. So we did 12 focus groups with about 115 workers, and 94% were women of color, 88% non-white. Isn't that the same thing? What am I talking about here? 81% born outside the United States, so all immigrants, in other words. About a third spoke English at home. Home care workers were 4/5 of our total, followed by cleaners and nannies, so it's mostly home care workers. And they had all different arrangements in terms of their employment. So in New York City, many home care workers, including the publicly funded ones who are funded by Medicaid, this is not true in many other parts of the US, say California is completely different, are hired through agencies, not the kind that I showed you the ad for before, but small agencies that specialize in Medicaid funded home care. And they are unionized in New York City. Their pay is standardized to hourly pay. They're paid by check. There are relatively few of those violations I mentioned. However, they often have very short hours because their hours are determined by a social worker comes to the client's home and evaluates the situation and says, okay, you need 10 hours a week of a home care work. So then that's the job. They may work more than that, but they're paid for 10 hours. And they might only have that one job or maybe two like that, but it doesn't often add up to a full-time job. And they're often, you know, pressure, they become attached to their clients and sometimes do work unpaid hours as well. Nannies and house cleaners, very different. There are a few hired through those agencies, but mostly it's all informal through social networks of either the employer or the workers themselves, you know, who refer one another to nannies and house cleaners. And this is like, you know, it's all sort of trust-based on both sides. None are unionized virtually. Well, there may be three or something, but I mean, basically nobody's unionized in that sector. There is a worker organization called the National Domestic Worker Association that has some members in New York City. So, you know, but it's a tiny part of the total, basically rounding error, as they say. Their pay is typically informally negotiated. Will you be a nanny for me? I'll pay you $300 a week or whatever it is. And it's usually in the week, not the hour. So the hours are unclear, which becomes a problem sometimes. And typically it's in cash, unregulated, unregistered. And there's no, you know, what does it mean to be a nanny? You'll see examples. It's not clear exactly what the work entails often. So some, the more savvy workers will try to negotiate that, but even if they do, it kind of accumulates over time. Whoops. So here's a couple examples. This is a nanny in New York. Once you're in, after a month, after a year, they start to drop little things. Can you iron this? Can you do my laundry today? It changes like crazy. They ask, could you take my shoes to the shoemaker? The job is not black and white. She summarizes, it's gray. That's not our gray market exactly, but anyway. this is a home health aide. We end up doing work beyond our responsibilities, such as cooking for the whole family, preparing meals for their grandson's next day at school, cleaning the kitchen and the bathroom. This is not what they're hired to do, but they end up doing it. If you don't do these things, they ask to replace you with someone else. So there does seem to be something of a trade-off between pay and job security. So the nannies and house cleaners earn by far more than the home care workers, who are paid well. At the time we did the study, it was $11 an hour, the minimum wage legally. Now it's 15. The nannies and house cleaners earn more, but they also have much longer hours. So, and they're also, oh, I should mention, there is a group that we didn't include in this project, but of privately paid home care workers, that's our gray market. They tend to earn what nannies earn. So these are much better jobs in that sense, but they're completely insecure, as you'll see. This is one saying how good the pay is, but the problem, and the home care workers often have health insurance coverage and other benefits, which the others almost never do. That work is pretty secure, but much less well paid. Like if you're a home care worker in the union, your client either doesn't need care anymore or dies more commonly, they'll get you another job right away. Like that, you're not going to be unemployed. But nannies and house cleaners are typically fired with no notice, no severance pay, nothing. Here's one who says, I'm paid well, but I don't spend much because one never knows. One can have work today and tomorrow not have any. And many of them said that. I have almost no time, so I'm going to skip through this, but you get the picture. The nannies often feel very disrespected by their employers. They look at us and say we are nothing, but every morning we come in and release you so you can go to work and you don't have to worry about your precious child. I mean, there's often like a rivalry for the child's affection. There are all kinds of things that contribute to this, but the point is they don't feel appreciated and valued often. this is another one. They're really interested only in you taking care of their child when they're not there and you do your best. They don't care about your life. House cleaners say similar things. They think we're robots that we'll do everything super fast. Okay. For the home care workers, it's more, there's variation. Some feel that way, but I like this quote on this next one. Some of them see themselves as kings or queens. They treat us as their servants. We try to tell them we are not slaves. We are here to help. So there is that. But then there are others who have a much more, who do feel appreciated. So this is a quote from one of those. I think old people, when they reach a certain time in their life, they need comfort. They need somebody to love them, to assure them that you are here for them. It's a good feeling. It's really satisfying. It's not an easy job, but you have to dedicate yourself and tell yourself, I want to do this. Sometimes that takes a religious form, by the way. But anyway, but I think the money part needs to be a little more rewarding. So that's what I meant about a trade-off. Like, this group is paid the least, but the work is often more meaningful. Not for everyone, but much more commonly. Okay, one more thing, and then I'll stop because I'm out of time, right? Oh, it's still 5 minutes. Oh, okay. I can slow down. I always talk too fast, but I have a reason today. Well, this is another example that this probably does not exist in a lot of the other countries represented in this room. But because of the enormous decentralization in the United States, there's a lot of, that study is of New York City, but across the country, there's huge variation in all this. Maybe not in the elite part, that's probably pretty much the same everywhere, but one of the axes of variation is that home care is unionized in New York, California, Illinois. Eileen, help me. There's a few other places, Oregon and Washington, but most states it's not. And so then you got a whole different thing. So this is another news article. Mother and daughter do the same job. Why does one make $9 an hour more than the other? A tale of two home care workers. So one lives in Washington State and the other lives in Arkansas, mother and daughter, where there is no union. So, you know, that's how it is. I won't read you the whole thing, but you get the idea. So that's another difference. And there are lots of others. Those of you who were around yesterday or are part of this group, we talked yesterday about the so-called gray market, which is the informal, in between those agencies for the very rich and the Medicaid-funded home care, is this big middle-class territory where most of the employment of home care workers is informal. And they avoid the agencies because the agencies charge a hefty fee. And so the employer pays more and the worker earns less. So many people sort of avoid all that and make, it's like being a nanny through informal contacts. So we are hoping to study that part of the market, which there's very little written about, but it's big. We don't know how big exactly. That work, again, pays better than even the unionized Medicaid-paid care, probably similar to nannies. Okay. And then, of course, you all know this because we've been talking about it today. There's a lot of care by family members. And in some parts of the United States, that is paid care through California is the best example. So there's another variation. Suppose you have a sister or a husband who needs home care because of a health condition. If you qualify for it's called Medi-Cal in California, but for government paid home care, the family caregiver can be paid whatever money the however many hours the social worker determines you're entitled to. And of course, those family caregivers often work 40 hours and are paid for 10 or whatever. So their effective wage is really low, but at least they get paid something, which they wouldn't in states that don't have this option. For some reason in New York, it exists as an option. It's called consumer directed home care, but very few people take it up. They mostly go, I'm not sure why that is. Maybe we'll find out if we do that study. So the Medicaid funded home care workers, as well as the ones from the rich people agencies, I'll call them for short, have to have a certain level of training to be able to do things like give injections and medications to their clients. The family caregivers who get into the consumer directed program do not have to have any training, and same for the gray market. So that's another, it's quite varied. Okay, COVID-19, we don't really know that much about what happened, except that, as everyone knows, when schools and childcare centers closed, mothers left the labor force often and took on those duties. And many of these workers lost their jobs. We've talked about this, so I will not go through this because we are out of time. Yeah. And okay, so 2 minutes. Oh. All right. This is the last slide, actually. Just to say that there is some organizing among these workers. It's sort of spotty, but it's not like there's nothing. So the unionization obviously came from some of that organizing, although a lot of it was sort of orchestrated top down, but still. So there are now 8 states with the unionization. Childcare workers also can, under some circumstances, who are publicly paid, have unionized in a few places, in a dozen states, a dozen out of 50, right? So, but it is the more populated one. So it's definitely more than it sounds like in terms of the percent of the workforce. There are some co-ops there's one in New York, which is the most famous, called Cooperative Home Care Associates, which is unionized, actually was set up partly by the union. We already mentioned these domestic workers' bills of rights, which NGOs have fought for in 9 states, starting with New York. And there's other organizing now among employers to support domestic workers' rights in very limited geographical areas, like those of you who know New York, Park Slope, you know, places where there are a lot of progressive employers. And there have been campaigns to increase the pay levels for those publicly paid home care workers. And maybe most interesting is a campaign that hasn't really gotten traction, but I think is a brilliant idea, called Caring Across Generations, which the National Domestic Workers Association has mounted. And the idea is to create Caring Across Generations. The idea is that elderly people who receive home care services, there's a huge shortage of these workers, would benefit from more stability in employment. And so the proposal is to create a special immigrant visa for workers who do this. So I guess I heard that not Quebec, but the rest of Canada does have something sort of like this now, although I gather it has some problems. So anyway, there's a lot of advocacy going on, but that's the end. Okay.
Je présente Nadia Araujo-Guimarães. Elle est professeure à l'Université de São Paulo et chercheuse au CEBRAP, au Centre Brasileiro de Análise e Planejamento. Son dernier ouvrage, en collaboration avec moi-même, avec Elena Hirata, s'appelle Care and Care Workers, A Latin American Perspective, et a édité par Springer en 2021. Nadia va, en 30 minutes, parler de l'approfondissement et la ressignification des inégalités du travail du CARE dans le Brésil contemporain, et nous verrons les convergences et les divergences avec ce qui vient de nous décrire Ruth Milgman dans les cas du Brésil.
Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici, et je dois remercier à Aurélie Damam et Elena Hirata l'organisation de ce colloque et la possibilité de tous nos groupes nationaux étaient réunis ici à Paris dans ces premiers colloques. Bon, mon idée était de reprendre les cas du Brésil pour discuter comment le travail du CARE et nos analyses sur le travail du CARE sont un chemin très intéressant pour penser à la façon par laquelle les inégalités avancent et s'approfondissent. Hein. Bon, mon premier volet était pourquoi le Brésil? Hein? Je faisais l'argument de que le Brésil peut être un bon cas de départ. À ce moment-là, on a déjà choisi le Brésil, on a un an travaillant dans ces projets comparatifs, on doit être convaincu de que c'est un bon cas. Mais de toute façon, il y a un public qui est hors de notre projet. Donc, Je pense que c'est un bon cas pour enrichir nos réflexions à partir de quelques dimensions qui ont été en général prises comme des dimensions importantes pour comprendre l'offre et la demande du Caire. Hein. Brésil, c'est intéressant parce que on a un exemple d'un rythme inégal du vieillissement de la population si on compare par exemple avec la France. Hein. À ce moment, nous sommes dans le mouvement plus important d'accélération de ces processus de vieillissement. Ça veut dire d'amplification de la demande du Caire. Ce n'est pas le même le rythme d'autres pays qui ont déjà vieilli hein, avant que nous. Même surtout les plus âgés, très rapidement vieillissants, comme le Japon, par exemple. C'est intéressant aussi les cas brésiliens pour l'effet de qu'on a un exemple d'un rythme inégal d'engagement des femmes sur le marché du travail si on compare avec d'autres pays. Dans ces graphiques, on a plusieurs jolies colorées lignes. Hein. Mais le plus intéressant, c'est que le groupe en bas, ce sont les pays, exemples de pays du Sud. Et les groupes en haut, exemples de pays du Nord. Les lignes font référence au rythme d'engagement de femmes sur le marché du travail. Hein. C'est intéressant, des années 60, 1960, 2010. C'est très intéressant que ce rythme s'accélère partout, hein, d'une façon un peu plus différente. Mais ces groupes-là, qui étaient très différenciés au début, non, le Sud et le Nord, il y a une tendance à une sorte d'équalisation. Et c'est le Brésil, ce noir ici, non, celui qui a le taux d'accélération le plus important, celui qui se rapproche le plus du groupe en autre. C'est différenciant des autres exemples du Sud que j'ai pris, que sont le Mexique, le Chili, l'Argentine. Mais c'est intéressant aussi les cas brésiliens parce que, et ça c'est un graphique, une figure de Aiello, par une caractéristique typique de son régime du Caire, qui c'est un mode de production de Caire très fortement ancré sur l'emploi des travailleuses domestiques. Non? Ce sont les pays en bleu clair. Non? Ça, c'est un espace un peu dommage qu'il y ait en gris. Ce sont des pays pour lesquels ils n'ont eu pas d'information. Non? Mais c'est intéressant de voir la différence entre les pays du Nord qui sont dans notre étude et les pays du Sud comme le Brésil. Je ferai deuxième volet l'argument de que dans ces conditions-là, le Caire, si on pense dès la perspective du cas brésilien, c'est un domaine professionnel à la fois florissant, diversifié et inégal au Brésil. Hein. C'est très intéressant que c'est un segment vraiment large du marché du travail brésilien. Dans ces graphiques, on peut voir les occupations du Caire, hein, du service personnel du Caire. Elles sont 2019, 25% désoccupées sur le marché du travail brésilien. Hein. Elles ont le même, presque la même importance que toutes les autres occupations du service. Hein. Le Caire et les autres services ensemble font une moitié du marché du travail au Brésil. Cette large portion du marché qu'on parle ici. C'est diversifié. Ce n'est pas seulement grand, mais il est diversifié. Dans les textes que j'ai préparés avec une collègue brésilienne, Luana Pinheiro, on a essayé de penser, bon, c'est grand, mais est-ce qu'on peut démarquer les contours, hein? Jusqu'à qu'est-ce qu'on on absorbe à l'intérieur de ce qu'on a appelé cet halo du Caire, non? Et on a essayé de démontrer que les différences sont significatives. Hein? Ça varie beaucoup si c'est un travail qui s'est fait dans les domiciles, dans les résidences privées, ou si c'est un travail qui s'est fait hors du domicile, hors de résidence privée. Il peut un travail qui demande un rapport direct avec les personnes ou un rapport indirect avec les personnes. Mais aussi, il y a un troisième axe important pour organiser cette hétérogénéité, c'est si c'est un travail nécessairement récurrent, sans lequel la personne qui se bénéficie du travail n'aura condition de bien survivre, ou si par contre, c'est un travail qui se peut faire avec moins de récurrence, même s'il est important, nécessaire, mais il n'a pas besoin d'être continu. Non? La discontinuité ne pose pas un risque à la qualité de la survie de la personne. On a travaillé avec ces trois dimensions, non? Les contextes et la nature de l'altération, la récurrence de l'altération, pour grouper 70 différentes occupations que dans le cas de la classification occupationnelle brésilienne, on pourrait penser qu'elle faisait partie de cet halo d'Iker. Et on va voir que les noyaux durs de cet halo, hein, c'est défini exactement par la plupart des noyaux durs, c'est défini par les occupations que Ruth a fait référence avant. Non? Ce sont le néni, non? Si je mélange les idiomes, je marche plus. Les nounous, hein? Ce sont les travailleuses du cœur à domicile, hein? Et ce sont des travailleuses domiciliaires de service général. C'est lui, c'est les noyaux durs, hein? Où on fait les croisements entre les travails dans un contexte domestique, à la fois dans une relation soit direct, soit indirect, mais toujours récurrente. Hein? On a essayé de penser à cette hétérogénéité en utilisant la métaphore du cercle, non? Pour penser ces noyaux durs et les autres occupations qui s'éloignent de ces noyaux. Non? Je dois regretter à Simone Wagemann, l'idée de traduire dans ces beaux, ces belles figures. Non? On a le noyau dur, non? Que j'ai parlé avant, mais on a fait cette intersection entre les deux cercles le plus interne pour souligner qu'ils sont flux les frontières. Non? C'est parfois, si on regarde la classification, on pense que la différence entre ce qui est direct et ce qui est indirect, même si ce sont les deux récurrentes, c'est vraiment importante et divise les travailleuses et ses conditions de travail. Pas du tout, non? Même si les statistiques ne nous montrent pas dans la décrition des occupations, on imagine qu'il est possible de penser cette intersection par l'énorme quantité d'études qualitatives qu'on a et qui donc témoignent de ce que les narratives hein, des routes disent. Hein? Je suis recrutée pour faire charge de la personne âgée, mais est-ce que tu peux m'aider et faire un peu la cuisine? Hein? Est-ce que tu peux m'aider et en plus que la salle de bain de la personne âgée, laver aussi la salle de bain des autres personnes de la maison? Hein? Bon. On pense que cette hétérogénéité, elle non seulement varie en termes de la nature de l'occupation et de la centralité du care pour la reproduction immédiate et la survie de la personne, mais c'est important aussi en termes de forme d'inégalité. Avant de passer à ça, je veux dire une chose, c'est un marché très florissant, non, au Brésil. Ici, cette jolie figure, c'est le rythme de croissance de l'emploi des travailleuses domestiques du cœur. dès 2012 jusqu'à 2019. Non? Vous voyez que ce rythme est intense, non? Continu, et que ce rythme persiste même dans les moments où la crise économique s'abat sur le pays. Non? Par contre, la ligne verte, c'est la moyenne, la croissance moyenne des autres occupations. Non? Il y a un croisement qui va de 100, c'est rythme de croisement, non, de croissance, pardon, de 100 à 106 %, hein. Il y en a, mais trop, trop petit, non, si on compare avec la tendance qui fait le 100 à l'année 2012 jusqu'à presque 300 à l'année 2019. Florissant, mais très inégal, non? Si on prend les cercles, non, ces mouvements de s'éloigner du noyau dur jusqu'à d'autres occupations du Caire, on va voir que de plus qu'on s'éloigne, plus blanc et plus fréquent la présence des hommes sont dans des occupations du Caire au Brésil. Les cercles 1 et les cercles 2 sont surtout les cercles où sont les femmes noires. Ah, ça veut dire que les noyaux durs du Caire au Brésil, ah, c'est une activité qui s'est sur les épaules des femmes et des femmes noires. On a des données officielles du Brésil qui sont étonnantes, qui ont essayé d'ajouter les charges de travail du Caire des 7 femmes noires chez les autres où elles travaillent, payées plus que les charges de travail du Caire chez elles-mêmes, et cette somme-là signifie presque toute la semaine. Ce sont presque 400, 4 pas, hein, 100 des heures de la semaine possible de l'existence. Ça veut dire elles font que Caire pour les autres et pour ces familles. Hein. C'est inégal aussi en termes de différence de revenus entre les contextes où on travaille. Et ça, revenus et protection, non? Il y a un groupe de travailleuses du Caire qui le font sous les relations de contratation par les personnes, le domicile, non? Ce sont les plus bas revenus moyens. Après, les autres qui sont soit self-employed, soit contratés par les entreprises privées, non? Elles reçoivent plus ou moins le même, non? Sont à mi-chemin. Et les autres travailleuses du Caire, des cercles plus éloignés, en général recrutées par l'État, protégées pour les conditions de contratation, pour le salaire et la protection sociale. Mais, et ça dialogue de nouveau avec Ruth, il y a une importante différence de risque et inégalité. Si on mesure par les risques d'être affecté par la pandémie en termes de sa condition sur le marché du travail, de transiter de l'occupation au chômage, entre parmi les travailleuses du noyau dur. Hein? Donc, ce risque est plus important quand on se réfère aux travailleuses domestiques en rapport direct et récurrent d'équerre. Hein? Ce risque est aussi important, ça veut dire les travailleuses du Caire à domicile. Hein? Ce risque est aussi important, mais pas si important que parmi le care workers, si on parle des employés domestiques au service général. Non? Et ça, c'est tout à fait différent, ligne plus foncée, quand on fait référence aux travailleuses non domestiques. Non? L'inégalité est très importante aussi en termes d'accès aux services du Caire. Ça veut dire que l'inégalité dans les cas brésiliennes, elle recouvre soit les travailleuses du Caire, soit les bénéficiaires du Caire. Et dans notre équipe, on a travaillé sur ça. De nouveau, le groupe se déplace à Simone a produit une analyse très intéressante en démontrant que dès qu'on avance dans les structures de distribution des revenus, non, la chance, la possibilité de acheter service du care existe. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle est presque nulle. Non? On a rencontré ça dans notre livre, Elena et moi, aussi au Brésil, en 2018, 8 des 10 domiciles au Brésil n'avaient aucune ressource pour contracter aucune sorte de service du care. Ça veut dire, c'est tout simplement dès qu'on arrive au centile à 87 de la distribution des revenus que les gens ont la chance de contracter des services du care. Et elle ultra utilise ce service, non? Elle multiplie les formes de contratation. J'ai un employé à service général, j'ai une care worker pour mon père, j'ai celui qui conduit ma voiture, j'ai celui qui fait les jardins. Donc, on peut voir que dès qu'on avance dans la distribution de revenus, non pas seulement augmente, mais se multiplie les types de services du care qu'on contracte. Ça veut dire qu'on parle d'un marché du travail florissant, mais un marché qui est socialement totalement restreint aux couches les plus bien payées du pays. L'inégalité est absurde en termes d'accès. Hein? Les effets de la pandémie ont été importants sur les femmes. Hein? Ici, c'est São Paulo. C'est un panel qu'on a fait avec les gens occupés en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Non? Les femmes, presque une moitié de femmes, elles ont passé à l'inactivité, elles ont laissé le marché du travail et ce qu'elles disent, j'ai dû laisser pour me faire charge des affaires chez moi. Hein? C'est ces groupes-là, en rose. Pour les hommes, c'est ridicule, c'est un 4%. Car ça nous pose une question qui est un défi pour notre recherche et j'ai pensé laisser à déjà. Si je bouge vers les conclusions, non? Dans les cas brésiliens, c'est si important que analyser le marché du travail, et j'aime bien analyser le marché du travail, c'est mon espace de préférence en termes professionnels, mais dans ce cas-là, il faut analyser le marché du travail, mais il faut aller plus loin que le marché du travail, parce que le care, c'est quelque chose qui se résout surtout dès que 8 en 10 domicile n'ont pas d'argent pour acheter aucun service du care en tant qu'obligation de femme ou en tant qu'aide de voisins et de réseaux. Et j'ai mis les mots obligation et aide entre guillemets justement pour souligner qu'ils sont des mots émiques, non? Ce sont les formes par lesquelles les gens signifient ce qu'elles font, non? Et mon idée, c'est la force des significations émiques et l'importance de les prendre toujours en sérieux, c'est quelque chose de central pour l'analyse du care dans les cas brésiliens, hein? Du Brésil et des autres contextes où la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté, c'est la pauvreté enracinée dans un contexte d'extrême inégalité. C'est cette combinaison qui c'est importante pour nous. Pour finir, quelques mots pour animer un peu le débat, non? Et pour mettre dans nos épaules l'équipe brésilienne ce que nos défis, non? Mon idée, c'est qu'est-ce que ce particulier régime de care nous pose en tant que défi, non? Et je dirais trois choses, non? Je commence avec une chose que j'ai pu lire hier soit dès que je sortis d'ici, dans la presse brésilienne. Le riche femme de plus riche quartier à São Paulo ont un groupe WhatsApp dans lequel elles discutent sur ces travailleuses du care, employé domestique au service général, et ses nounous. Hein. Et la justice brésilienne a rencontré cette groupe comme un groupe discriminatoire, hein, et d'action, d'exclusion des femmes sur le marché du travail. Et je ne vais pas lire tous, je lirai que le premier extrait d'une conversation. Une dame dit à une autre, à propos d'une travailleuse du Caire, elle a des graves problèmes psychologiques, une dépression et un grave problème avec la religion. Elle a vu avec un pai de santo, c'est-à-dire un leader religieux de culte afro-brésilien, dans un macumba terreiro, un espace religieux afro-brésilien. N'est jamais embauchée. Elle a menti que sa mère avait eu un accident vasculaire cérébral et était décédée. Elle est restée des semaines sans travailler et elle est allée au tribunal pour demander 50 000 reais. Hein? En plus, je bouge la dernière, une dame qui dit, Joana, non fictionnelle, j'ai quitté mon dernier emploi en décembre et j'ai immédiatement commencé à chercher un autre. Tous les entretiens que je fais, 3, 4 par semaine, ont été très productifs. Les patrons ont donné confiance, se sont engagés avec l'embauche. Et on dit qu'ils aimeraient, ils aimaient le travail, mon travail. Mais alors, silence, pas de réponse. Et c'était comme ça en décembre, janvier, février. Je n'ai jamais été aussi longtemps sans travail. Dès qu'une amie lui dit, écoute, Joana, j'ai parlé à ma patronne pour t'aider et elle a dit que tu ne vas pas trouver un travail parce que tu es sur une liste de nounous. Ça pose un exemple de l'extension de cet effet d'inégalité, d'hierarchie dans ces marchés de travail. Non? Donc, si on reprend notre question liée aux axes de recherche, non? Penser le Brésil du point de vue des besoins des familles et ses formes très inégales d'accès au clair, il y a plusieurs des mouvements à capturer. Hein? Et ce sont des mouvements très différents. Parce que parmi les 20% les plus riches qui achètent le service du Caire, il y a une marchandisation avec une internalisation d'une pluralité croissante de services rémunérés du Caire. Marchandisation ne signifie pas externalisation, défamiliarisation. Peut signifier pluralité des formes de travail que je contracte qui s'exercent au domicile, hein? Et les effets de la racialisation pardon, extrême que les slides intérieurs ont fait référence. On a rencontré dans nos entretiens qu'il y a des gens qui doivent rester à la cuisine parce qu'il y a de la peau, quelques-unes qui peuvent aller à la salle, pour donner les repas, et d'autres qui peuvent arriver aux chambres et toucher les corps. Ma mère, j'aime pas être touchée par une femme noire. On a entendu ça. Elle n'est pas raciste. Nous ne sommes pas racistes, mais elle ne se sent bien. Hein? Par contre, parmi le 8% de la population qui ne peut pas acheter, il y a une intense familialisation du Caire. La famille et les réseaux, je finis, et je ne pose pas les autres problèmes, sont la forme de s'en sortir. Pendant la pandémie, hein, on a appris que 81% des personnes à la famille qui faisaient des guerres étaient les femmes, et surtout âgées, 60% à 5 ans et plus, 40% noires. Hein. Les charges de travail ont augmenté. Les familles rurales ont devenu très importantes pour recevoir les gens. Et ça, ça sonne pour nous. Tika a parlé le matin, qui sommes très urbains, métropolitains, etc. Hein? Une mobilisation significative du travail non rémunéré de jeunes filles. Donc le nini, nonon, néné, n'importe quel idiome, sont des filles qui travaillent, qui font du cœur, qui ont augmenté les charges du cœur pendant ces périodes. Non? Autant que les types de familles changent, nous avons tout le temps pensé aux familles, à un mari, une femme, des enfants, trois enfants, non? Les formes de famille changent, non? Et les croisements des domiciles impersonnels aussi, non? Je termine avec cette illustration de ce qui peut se passer quand on observe la question du care de le point de vue d'un régime du care si fortement inégal. Non, j'avais deux autres slides pour parler de l'État et de le welfare et pour parler de la vulnérabilité. Mais je peux laisser ça pour le débat. Plus d'informations, je fais l'annonce. Vous pouvez rencontrer dans le website de notre projet, Who Cares, qui a une version en portugais et une autre en anglais, les documents de travail, les données, tout cela. Les liens, c'est celui. Grand merci et partons pour les 3 minutes.
Merci Nadia de nous avoir parlé de ces noyaux durs du travail du care au Brésil qui montrent les convergences et les différences justement avec ce qui a dit Ruth Milkman. Et ce qui est intéressant justement, c'est que les noyaux durs ont une hétérogénéité étant donné justement la question de la race, de la classe. Et du genre qu'elle montre bien comme ces caractéristiques déterminent une forme d'hétérogénéité spécifique, disons, à la situation brésilienne. Je vais passer la parole à Louisa Ciari, qui est à l'Université College of London. Elle est co-directrice du Centre for Gender and Disaster au Royaume-Uni. Son dernier ouvrage s'appelle Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas na Pandemia, Memórias da Resistência. Syndicat des Travailleuses Domestiques dans la Pandémie, Mémoire de la Résistance. Et ça a été publié par l'Université fédérale de Santa Maria avec la FENATRAD en 2021. Louisa va nous parler sur résister en temps de crise, apprendre des travailleuses domestiques et du care dans une perspective comparative.
Merci, Elena. I've had a long existential crisis about whether I should speak French or English.
We have to speak in French and they translate in
English. And it's always in English, okay, but I've kept my slides in English.
Okay.
So,
no
je suis team UK, donc les slides sont en anglais. Et je voudrais également vous présenter mes excuses. Parce que dans le programme, vous attendiez ce qui est Saba et moi. Mais du coup, on s'est réparti les tâches. Donc, Saba a présenté un papier pour la discussion interne hier sur les méthodes mixtes. Et donc, cet après-midi, vous n'avez que moi. Mais Saba est là, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus sur son travail. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas facile d'être dans le même panel que Nadia et Ruth, qui sont des personnes dont j'admire beaucoup le travail. Donc, voilà, j'espère ne pas vous décevoir avec ma présentation. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de discuter un peu comment les travailleuses domestiques ont résisté, se sont mobilisées. Donc, on a beaucoup parlé depuis hier et bon, depuis 3 ans des effets de la pandémie sur le secteur du care, sur le travail domestique. On a pas mal de données sur le fait que c'est un des secteurs les plus affectés. Et donc, l'idée, c'est bah, d'essayer de montrer un autre côté, peut-être un peu moins désespérant. C'est Pascal qui a dit ce matin, la politique, c'est avoir de l'espoir. Donc, voilà, on termine avec une petite note d'espoir, de voir qu'est-ce que ces personnes, ces femmes précaires sont capables de faire dans un contexte aussi grave que celui de la pandémie. Donc, j'ai commencé avec une citation d'une journaliste qui, au tout début de la crise, a dit que le coronavirus était une catastrophe pour le féminisme. Et c'est une citation que j'aime beaucoup. Donc, tout de suite, elle place le débat sur le plan social et non pas juste sanitaire, médical. Et en fait, bah, dès le début, dès les premiers mois de la crise, on s'attendait à ce qu'il y ait des effets assez dramatiques sur le travail, sur la santé, etc. Donc, les deux présentations avant moi ont très bien montré les enjeux au niveau du travail. Et donc, j'ai cette citation, je la trouve toujours d'actualité, en fait, et de voir au-delà de l'aspect biomédical, les conséquences dramatiques que ça a eues en termes sociaux sur l'emploi. Donc, d'un côté, la perte d'emploi, mais de l'autre côté, toutes celles qui sont restées employées, qui ont dû faire face à des situations extrêmement difficiles, soit d'exposition au virus, soit de violence et de non-respect de leurs droits. Il y a pas mal de littérature sur le genre et les crises. On a un peu parlé, déjà beaucoup parlé, de la crise du care ou de la crise de la reproduction sociale, donc aussi comme noté ce matin, qui a une traduction, une connotation différente en français. Donc il y a les travaux de Fraser, entre autres. Mais du coup, bon, cette idée que la pandémie a rendu cette crise plus forte, plus visible, plus intense, et à la fois... que en même temps, les besoins de care, les besoins de ce type de travail ont augmenté. Du coup, bon, comme aussi mes collègues l'ont déjà souligné, on est dans une situation un peu paradoxale, un peu compliquée, où d'un côté, on a plus de besoins, surtout pendant les moments du confinement, de surcharge des services de santé, etc. Donc, un pic énorme de besoins, de demandes pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, etc., de faire des tâches qu'on pouvait... normalement externalisé, et d'autre part, les personnes qui sont normalement rémunérées pour faire ces tâches se retrouvent soit au chômage, soit dans des conditions absolument catastrophiques de travail. Donc, parmi le groupe des care workers, moi je me concentre plus spécifiquement sur les travailleuses domestiques, donc celles qui travaillent à domicile en échange d'un salaire, donc qui peuvent être les nannies, les femmes de ménage, ou bon, en France ce serait peut-être l'équivalent des aides à domicile. Qui s'occupent des personnes âgées, mais donc qui sont employées directement par la famille. Donc, c'est une relation de travail particulière dans un espace particulier. Et c'est un groupe qui n'a pas commencé à être exploité ni précaire au moment de la crise du Covid. Et donc, il y a un article qui est sorti l'année dernière qui parle de continuité de la précarité. Donc, il dit que, bah, évidemment, c'est pas la crise qui a créé, c'est pas la pandémie qui a créé cette situation de précarité, elle était là avant. Et du coup, on peut voir comment ça continue, ça s'amplifie. Et du coup, donc, j'aimerais vous proposer de discuter, de réfléchir avec vous comment ce groupe de femmes tellement marginalisées, précarisées, a pu s'organiser et résister dans ce contexte de crise, et quelles sont les leçons qu'on peut essayer d'en tirer. Donc, très rapidement, bon, ça, on en parle, voilà, on a déjà parlé aujourd'hui, hier. Donc, globalement, ce qu'on entend par care work, ça comprend quand même voilà, beaucoup de métiers. Ça représente, donc selon l'OIT, à peu près 380 millions d'emplois au niveau global, donc avec des tâches allant de l'éducation au ménage à la santé. La particularité de ce secteur, donc, c'est qu'il est extrêmement féminin. Ce sont des tâches qui, en général, impliquent un rapport direct avec des personnes, et ce sont des tâches qui ne peuvent pas être faites à distance. Donc, contrairement à nous autres, les académiques, par exemple, qui avons pu travailler depuis chez nous, ça, ce sont des tâches qu'on ne peut pas faire en home office. On ne peut pas faire le ménage en n'étant pas là, on ne peut pas s'occuper de quelqu'un par téléphone. Donc, c'est un secteur qui a été extrêmement mobilisé, extrêmement touché par la crise. Juste quelques données. Donc, au niveau mondial, à peu près 70% des travailleuses de la santé sont des femmes, 85% des infirmières et des sages-femmes, et 90% des care workers, de faute d'une meilleure traduction, dans les institutions de long terme, sont des femmes. Donc, parmi ce groupe, comme je vous le disais, moi, je regarde particulièrement les travailleuses domestiques, qui est un groupe important aussi, donc 65 millions de travailleuses au niveau global. Probablement, c'est une donnée un peu sous-estimée à cause de la nature informelle du travail. La majorité sont des femmes, des travailleuses informelles, à peu près un cinquième sont des immigrantes internationales. Dans quasiment tous les pays, elles touchent en dessous du salaire minimum. Et dans quasiment tous les pays, à part de très, très rares exceptions comme l'Uruguay, elles ont un statut du travail qui est différent. Donc, quand bien même il y aurait des lois et des formes de protection, c'est jamais exactement la même que pour les autres. En Amérique latine, donc, qui est le continent, la région sur laquelle je vais me focaliser aujourd'hui, il y a 18 millions de travailleuses domestiques. Juste au Brésil, il y en a 6 millions. Donc, un tiers à peu près des travailleuses du continent sont au Brésil. Encore une fois, une majorité de femmes, une majorité de femmes racisées, donc soit afrodescendantes, soit indigènes. La moyenne du continent, c'est à peu près 14% de la force de travail féminine. Et au Brésil, ça reste le premier secteur d'emploi pour les femmes noires. Et ça reste, donc, comme le graphique que Nadia a montré, ce sont c'est la source première de care, c'est les travailleuses domestiques. Il y a évidemment, puisque ça fait déjà 3 ans, il y a pas mal d'études qui montrent à quel point la crise a été dure pour le secteur du travail domestique. Donc, surtout, premièrement, en termes de perte d'emploi et de revenus, parce que c'est un secteur essentiellement informel, donc une difficulté ou une impossibilité d'avoir accès aux mécanismes de protection classiques de sécurité sociale comme le chômage ou autre. Et pour celles qui sont restées en emploi, un non-respect de leurs droits du travail et une détérioration de leurs conditions de travail. Et donc, selon l'OIT, en Amérique latine, c'est à peu près 75% des travailleuses domestiques qui ont été durement affectées dans les premiers mois de la crise, donc en termes de perte d'emploi et de revenus. Donc, pour parler du Brésil toujours, deux cas assez tragiques qui ont été pas mal commentés, un peu plus que l'autre. Les deux premiers cas de décès de Covid au Brésil ont été par des travailleuses domestiques, qui sont celle qui a été, je pense, le plus vue, le plus commentée au niveau national, international, c'est Cléonice et Gonçalves, qui est arrivée au tout début de la pandémie, qui a été contaminée par son employeur, par sa patronne qui revenait d'Italie, qui a contracté la Covid en Italie et qui n'a pas prévenu son employé. Donc l'employeuse a eu accès aux soins et voilà, pu s'en remettre. Et Cléonice est décédée assez rapidement, avant même d'avoir la chance d'être diagnostiquée du Covid. L'autre dont on a moins parlé, puisque ça a mis plus de temps à sortir, mais c'est aussi une travailleuse domestique, une travailleuse journalière à São Paulo. Au début, on pensait qu'elle était morte de problèmes respiratoires, et au bout de plusieurs mois, les médecins ont conclu qu'en fait, c'était le tout premier cas de Covid au Brésil. C'est pas anodin que ce soit ces personnes-là qui soient touchées en première. C'est pas anodin qu'elles ne s'en sortent pas alors que leur employeur s'en sort. Et bon, voilà, je parle du Brésil parce que c'est le pays que je connais le mieux, mais c'est assez comparable dans tout le reste de l'Amérique latine, malheureusement. Bon, du coup, malgré ce portrait un peu dramatique, l'idée de ce travail en cours, c'est de voir. D'essayer de penser au-delà de la question de la vulnérabilité et d'essayer d'envisager la question du genre et du care comme des possibles vecteurs de mobilisation, donc pas juste les voir comme des facteurs de vulnérabilité ou d'inégalité, mais les penser dans le contexte de crise comme des éléments qui peuvent être utilisés par ces populations pour se mobiliser et pour résister. Nous, on voit pas mal dans la littérature en général sur les crises, les désastres. On présente souvent les femmes soit comme celles qui épongent les chocs, soit comme des populations plus vulnérables et plus atteintes. Et du coup, c'est pas, voilà, je ne veux pas nier cette structure, elle est là, on vit dans ce contexte, mais c'est de voir qu'est-ce que ces femmes font pour s'organiser, pour résister à ce contexte. Du coup, voilà, je fais appel à deux concepts en anglais, pardon. Que je trouve assez utile, donc, qui a été publié dans les dernières années. Donc, l'idée d'une communauté de care qui nous aide à penser au care au-delà de la question juste du travail et des tâches reproductives, mais d'imaginer le care comme un affect, comme un groupement de personnes. L'autre concept qui est le deep care, donc le care profond. Qui est le fait de s'occuper ou de s'inquiéter des personnes au-delà de la question du soin ou de l'aspect médical, mais d'avoir des gestes de solidarité ou d'avoir de l'empathie. Donc, un peu comme l'éthique du care, mais le travail en particulier que je cite fait particulièrement référence à l'Inde pendant le contexte de la pandémie. Donc, je trouvais que c'était assez utile et que ça dialoguait pas mal avec l'Amérique latine. Et donc, je propose de voir les actions des travailleuses domestiques en Amérique latine et de les concevoir comme peut-être un possible modèle ou en tout cas des leçons qu'on pourrait en tirer pour nous-mêmes. Je trouve que c'est un secteur qui a quand même énormément résisté, qui s'est beaucoup organisé au vu des difficultés auxquelles elles font face et qui ont démontré des gestes de solidarité assez exceptionnels au vu de la situation. Et donc, je pense qu'on peut apprendre d'elles. Alors, le tableau n'est pas très joli, mais c'est pour vous donner une idée de la taille de l'organisation du secteur en Amérique latine. Donc, c'est des données qui sont disponibles sur le site de la Fédération internationale des travailleuses domestiques. Donc, c'est tous les pays où il y a des organisations et si elles sont affiliées, donc IDWF, c'est la fédération internationale, CONLACTRAO, c'est la confédération latino-américaine. La plupart des organisations sont membres des deux, mais il y en a qui sont membres que de l'un ou de l'autre. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée du nombre de pays où il y a des organisations et du nombre de membres. Évidemment, le nombre de membres est excessivement restreint par rapport à la population totale des travailleuses domestiques. Néanmoins, étant donné les difficultés de s'organiser dans ce secteur, je trouve que c'est quand même non négligeable. Donc, pour rester sur le Brésil, c'est à peu près 12 000 affiliés pour 6 millions de travailleuses. Donc, évidemment, ça, on ne peut pas dire que ce soit représentatif, mais c'est quand même une organisation nationale et qui arrive quand même à organiser, malgré toutes les difficultés, à peu près 12 000 membres. En Colombie, les organisations n'ont pas beaucoup de membres, mais c'est pareil, elles mobilisent, elles ont fait énormément de travail pendant la crise. Donc, c'est voilà, à peu près 16 pays qui ont des organisations qui sont membres donc de la Fédération internationale ou de la Fédération latino-américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres pays, mais c'est le mapping que moi j'ai pu faire avec ces organisations. Et ça représente à peu près 130 000 membres sur tout le continent. Donc, ça reste quand même. Voilà, c'est infini par rapport à la quantité de travailleuses domestiques, mais ça reste quand même important. Et donc, du coup, je propose de regarder les campagnes de ces organisations affiliées à la Fédération internationale. Et pareil, donc ça fait un peu écho à ce qu'on disait ce matin, leur slogan principal pendant toute la pandémie, et ça a été un slogan partagé à travers toute l'Amérique latine, c'est « Prenez soin de celles qui prennent soin de vous ». Donc, un peu voilà, la question qu'on soulevait ce matin, qui prend soin des travailleuses du CARE? Et ça a été de manière assez rapide, en fait, les premières semaines, toutes les organisations affiliées à la FIT, à la Fédération internationale, ont adopté ce slogan « Prenez soin de celles qui prennent soin de vous ». Donc, je pense que c'est un slogan qu'on a pu voir aussi dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de la santé, mais qui là a été vraiment… Un cri de désespoir et un cri d'alerte, parce que c'est des personnes qui se sont retrouvées sans rien, et qui disaient, vous avez besoin de nous pour s'occuper de vos enfants, vous avez besoin de nous pour faire le ménage chez vous, on mérite aussi d'être protégés, on mérite aussi d'avoir nos droits respectés et d'avoir un minimum de protection. Donc, le premier, en regardant donc, ces campagnes et les différentes formes d'action, je propose trois formes d'action principales autour du care. Donc, la première, c'est prendre soin de soi-même, le self-care, qui est quelque chose qui n'était pas vraiment discuté avant dans les organisations de travailleuses domestiques. Et donc, par contre, bon, je suis désolée, j'ai laissé mes citations en anglais. Donc, ça, c'est une citation d'une dirigeante du Pérou qui explique que sa mission principale pendant la pandémie, en fait, c'était tout simplement d'appeler les membres et discuter avec ses membres tous les jours pour savoir si elles étaient vivantes, si elles étaient malades, si elles allaient bien. Et donc, il y a quelque chose que... c'est, évidemment, il y avait de la sociabilité avant. Là, elles sont coupées parce que c'est le confinement. Elles ne peuvent pas se retrouver entre elles pour faire les activités qu'elles font d'habitude. Mais elles se rendent compte immédiatement qu'il y a ce besoin de maintenir ce lien. Et du coup, au lieu de faire des tâches syndicales classiques de problèmes travaillistes, etc., immédiatement, elles se mettent à faire ce travail de care. Qui peut paraître pas grand chose, mais celle à qui j'ai parlé disait on passe la journée au téléphone juste pour savoir si nos membres sont là, quoi, si elles sont vivantes, si elles sont malades, comment elles vont. Et un autre thème qui est apparu de manière assez forte pendant la pandémie, c'est la question de la santé mentale, qui était aussi assez absente en fait avant des préoccupations des organisations de travailleuses domestiques, qui n'est pas quelque chose qui faisait partie de leur répertoire classique. Et tout d'un coup, donc on se met à discuter de la santé, on se met à discuter de la santé mentale, du harcèlement, de la surcharge de travail, de la panique, de la dépression. Elles emploient les mots dépression, elles emploient le mot santé mentale et elles parlent de cette situation possible que beaucoup d'autres collègues ont commenté et que je pense vous avez déjà entendu, mais de cette impossibilité de choisir entre sa santé ou son revenu. Donc, soit elles ont perdu leur travail, du coup, elles se retrouvaient dans une situation de pauvreté absolue, soit celles qui pouvaient ou devaient continuer à travailler, du coup, elles avaient peur d'attraper le Covid, elles avaient peur de mourir, elles avaient peur de contaminer leur famille. Et donc ça, évidemment, ça crée de la souffrance psychologique, ça crée du stress, etc. Et donc ça, la citation que j'ai mise, c'est une émission, une live que la dirigeante du syndicat de Nova Iguaçu, donc dans l'état de Rio, a fait au début de, en août 2020, où elle a invité une psychologue et une travailleuse sociale pour discuter de la santé et des travailleuses domestiques, et où elle parle du poids du harcèlement et de comment le harcèlement affecte la santé mentale des travailleuses domestiques. Donc, elle parlait déjà du harcèlement avant, c'est une question qui a toujours été très importante dans le secteur, mais elle ne le mettait pas forcément en lien avec la santé mentale. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important en termes de nouveaux répertoires ou nouveaux discours. Et là, donc, juste quelques exemples encore sur cette question de prendre soin de leurs membres, prendre soin des autres. Donc, elles ont également, quasiment toutes les organisations dans tous les pays ont fait un travail d'information et de dissémination. Donc, c'est une population avec des faibles taux de scolarisation qui n'a pas forcément accès à l'information. Sur l'information médicale, elle peut être compliquée. Et donc là, c'est un exemple du Mexique où elles ont designé un protocole de protection à envoyer à leurs membres pour essayer de leur communiquer de manière simple quelques gestes pour se protéger si elles devaient aller au travail et rentrer chez elles pour ne pas se contaminer. Le deuxième mode d'action, le deuxième répertoire, c'est celui de la solidarité. Donc, voilà, comme c'est un secteur essentiellement informel, celles qui ont perdu leur travail, elles ont tout perdu. Donc, en général, elles n'ont pas accès à la sécu, elles n'ont pas accès au chômage, elles n'ont accès à rien. Donc, c'est des personnes qui ont eu faim, concrètement, pendant la pandémie, qui n'avaient pas d'argent pour se nourrir ou nourrir leur famille, pas d'argent pour payer leur loyer. Et du coup, une des actions principales des organisations syndicales et associatives, c'est d'avoir distribué des paniers repas. Donc, tout d'un coup, les syndicats se mettent à faire de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence. Au final, l'urgence a quand même duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, aussi loin que j'ai pu retracer jusqu'à fin 2021, ils étaient encore en train de distribuer des paniers repas. Donc, ce n'était pas juste les 3 premières semaines de confinement, c'est vraiment quelque chose qui a duré et qui est devenu une espèce de nouvelle routine du syndicat d'essayer de courir après des financements pour distribuer de l'aide humanitaire. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a des spécialistes des mouvements sociaux ici, on pourra discuter plus longuement, mais c'est quand même un changement énorme du répertoire syndical donc par rapport à s'occuper de questions de droits travaillistes, d'aller au prud'homme, etc. Tout d'un coup, elles se mettent à faire un travail pour lequel elles n'étaient pas formées et bon, qui est absolument nécessaire, mais qui à la fois devrait venir d'ailleurs, devrait venir de l'État, devrait venir du public. On ne devrait pas s'attendre à ce que des organisations avec aussi peu de membres, aussi peu de ressources s'occupent de nourrir les gens. Donc j'ai choisi quelques photos. Celles-là, elles sont toutes du Brésil. Donc c'est Rio, São Paulo et Recife, où voilà, bon, pendant quasiment 1 an et demi, elles ont réussi à lever des fonds, à distribuer des paniers à repas avec les moyens du bord. Et j'ai choisi, puisque la Colombie est dans notre projet, donc des photos de Colombie. Donc là, c'est la leader du syndicat national, Yeni, qui est en train de faire des paniers, des kits d'hygiène. Donc pas juste des paniers à repas, mais avec des serviettes hygiéniques, du savon, des masques, etc. Et donc là, elle est toute seule sur la photo, mais bon, la plupart du temps, elle était toute seule à faire les paniers et à les distribuer. Et bon, elles ont du temps à inventer toute une logistique pour réussir à fournir cette aide à leurs membres. Le dernier mode d'action, donc qui là pour le coup un peu plus traditionnel, ce qu'on s'attendrait un peu plus d'un syndicat, c'est des actions légales autour de la loi et des droits. Et du coup, vraiment mobiliser l'idée du care et l'idée du droit à ce qu'on prenne soin d'elle comme un nouveau droit. Donc au-delà de la question du travail, du droit du travail, le droit de recevoir aussi du soin, de l'attention et une protection. Donc, au tout début de la pandémie, la plupart de la campagne s'est concentrée sur le fait d'avoir le droit à une quarantaine rémunérée, comme dans d'autres secteurs. Donc évidemment, c'est un droit légal qui n'existe nulle part, qui n'a jamais vraiment été mis en œuvre. Mais au Brésil, par exemple, il y a une directive qui recommandait d'éviter d'appeler les travailleuses domestiques, à moins que ce soit des employés, des médecins ou qu'elles aient une tâche de soins directs à la personne, mais il y avait quand même une notion, une recommandation au niveau national de ne pas les considérer comme essentielles si elles faisaient que le ménage. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays où elles ont été classifiées comme travailleuses essentielles. Donc, leur demande dans les premières semaines, c'est de dire bah, on n'est pas essentiel forcément dans tous les cas. Donc, essentiel, pas au sens philosophique, hein, essentiel au sens de faut-il nous appeler sur le lieu de travail ou pas. Donc, elle disait, bah, faut pas forcément nous appeler sur le travail. Par contre, faut continuer à nous rémunérer parce que sinon, bah, on est comme vous, voilà, on n'a pas de salaire. Donc là, c'est plusieurs campagnes. Donc, il y a l'Argentine, le Chili, la République dominicaine et la Colombie, où la demande prédominante est qu'on les laisse chez elles, mais tout en continuant à les rémunérer. L'autre demande, donc l'autre action, c'est pour changer les lois. Donc là où il n'y avait pas de loi, où la loi est imparfaite, donc c'est évidemment, ça ne commence pas avec la pandémie, hein, c'est des décennies de mobilisation. Au Brésil, ça commence dans les années 30, au Mexique, dans les années 20, donc c'est un mouvement qui n'est pas nouveau. Mais il y a eu quelques victoires législatives assez importantes pendant la pandémie. Là, c'est le cas du Pérou, par exemple, où en plein milieu de la crise, en octobre 2020, le gouvernement change la loi sur le travail domestique pour l'aligner à la convention de l'OIT, la convention 189 sur le travail domestique. Ce n'est pas 100% aligné. Aucun pays, quasiment, je pense, à part l'Uruguay, une égalité parfaite, mais c'est quand même une victoire significative dans ce contexte de crise qu'elles obtiennent ce changement de législation, donc qui donne le droit à un contrat écrit, donc pour essayer de les sortir de l'informalité, au salaire minimum national, l'accès à la sécurité sociale, la régulation du temps de travail, qui n'était donc pas le cas avant 2020, où il n'y avait pas d'heure fixe, donc pas d'heure sup, pas d'heure nocturne, etc. Le droit à avoir des vacances et le droit à la représentation collective au syndicat. Donc, quand même les syndicats existaient avant, ce n'était pas formalisé qu'ils pouvaient, par exemple, faire des accords ou d'intermédiation avec les employeurs. Il y a d'autres cas dans d'autres pays. Je pense que j'arrive presque à la fin de mon temps. Au Mexique, il y a la ratification de la convention de l'OIT, donc aussi pendant la crise, pendant la pandémie. L'Argentine et l'Équateur ratifient la convention 190, qui est la convention sur la violence et le harcèlement au travail. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez significatif que ça arrive à ce moment-là. Et l'Argentine a beaucoup été citée comme un cas modèle. Donc, il y avait un gouvernement plutôt progressiste. On peut débattre ce qu'est la droite et la gauche, mais bon, à ce moment-là, c'est un gouvernement considéré progressiste en Amérique latine, où pendant la pandémie, les syndicats de travailleuses domestiques et de travailleuses du Caire ont été invités à participer à des négociations nationales. Et ils ont lancé un programme national donc, qui s'appelle CARE dans l'égalité, donc l'égalité dans le CARE. Et il y a eu une réforme qui a été pas mal débattue de reconnaître le temps passé à s'occuper, à prendre soin de quelqu'un de forme non rémunérée pour le reconnaître dans les années de cotisation pour la retraite. Donc ça ne concerne pas forcément directement le travail domestique, mais ça concerne quand même beaucoup de femmes. Et ça, en tout cas, ça met la question du CARE sur le tapis et ça la rend plus visible. Ouais, du coup, pour essayer de conclure ou lancer des questions pour le débat, donc, je pense que cette campagne, ces actions peuvent nous inviter à voir le CARE, donc au-delà de la question juste du travail, enfin, juste du travail, non pas que ce soit peu de choses, mais essayer de penser le CARE au-delà de la question du travail, au-delà de la question des tâches reproductives, le considérer aussi comme une pratique ou comme un vocabulaire pour les droits et pour les mobilisations. Évidemment, la question centrale, donc, qui est là depuis le début du mouvement des travailleuses domestiques, de reconnaître le travail reproductif comme un vrai travail, donc, qui n'est toujours pas le cas, qui était une demande qui était là avant, qui sera là après, mais la pandémie rend ça plus urgent et plus visible. Leur campagne, à mon sens, permet de casser un peu cette dichotomie qu'on a eue au début. De la crise où les gouvernements avaient tendance à opposer sauver l'économie à sauver les vies, comme si on pouvait faire que l'un ou l'autre. Là, je trouve qu'elle montre quand même assez bien que c'est complètement imbriqué, qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, parce que bon, voilà, l'économie du Caire et les personnes qui travaillent font partie de l'économie. Donc, si on ne protège pas ces personnes, bah, ce n'est pas vrai qu'on peut sauver l'économie. Et elle propose un modèle de société beaucoup plus solidaire et beaucoup plus inclusive. Donc, peut-être voilà, repartir sur les débats de l'éthique du Caire. Et je propose une dernière citation de Bell Hooks que je vais vous lire en anglais parce que je ne l'ai pas traduit en français, qui, je trouve, voilà, résume assez bien la question bah, de l'affect ou de l'amour, de la solidarité comme une pratique féministe. Et je trouve que, voilà, que ces organisations ont mis en place pendant la pandémie. Donc, elle dit « A genuine feminist politics always brings us from bondage to freedom, from lovelessness to loving. Mutual partnership is the foundation of love. And feminist practice is the only movement for social justice in our society, which creates the condition where mutuality can be nurtured.
Merci, Louisa, de nous avoir donné ces derniers volets de la résistance, des revendications, des droits. que les autres n'avaient pas pu entamer. Et je pense que c'est intéressant que tu finis par proposant de réfléchir sur ce que Evelina Canoglen appelait a caring society, hein, avec les mots que tu as cités. Et je pense que, bon, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'on va faire un coffee break.